Accès libre avec Luc Fortin.
Hey, 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 ho, 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 il fait chaud! Vous savez, j'aime pas l'été. Alors, je compte les dodos, j'ai hâte à mercredi. Nous sommes le lundi 22 juin de l'an de grâce 2020. Et aujourd'hui, entre autres, on va partager l'inquiétude de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec qui s'inquiète pour l'avenir financier du transport adapté, puisque vous le savez possiblement, le transport adapté est subventionné au nombre de personnes qui l'utilisent. Et avec la situation actuelle, il y a tellement de gens qui ont décidé de rester à la maison qu'il y a pas mal... les budgets seront à la baisse. Et ça, ça inquiète des gens. La grosse nouvelle dans le handicap canadien, c'est David Eng, capitaine de l'équipe nationale de basket en fauteuil roulant, qui ne pourra pas aller à Tokyo. On y revient. Et il y a le regroupement des aidants naturels du Québec qui réagit à l'annonce du dépôt d'un projet de loi. Il y a eu le 11 juin dernier, donc dépôt de cette possibilité d'une politique sur les proches aidants. On y revient dans quelques secondes. Monsieur la Liberté, comment allez-vous?
Je vais fort bien. Et Luc, si ça peut être une consolation, puisqu'on est le 22 juin, ben dans 6 mois, on sera presque rendu à Noël, on va être à l'hiver et Luc sera content.
Oui, puis de toute façon, il n'y aura pas de Noël, COVID oblige. Alors, ce sera fantastique. Christiane me disait qu'entre autres, elle, son ventilateur, il y a une minuterie, mais il n'y a pas l'option pas de minuterie. Donc, à tous les 2 heures, elle est obligée de se lever pour redémarrer son ventilo. Je ne sais pas quelle compagnie a inventé cette niaiserie-là, mais c'est assez particulier. Est-ce que tes nuits sont pas pires?
Mais oui, moi j'ai pas de minuterie. Je suis dans un climat bien tempéré. Puis moi je profite de l'ombre.
C'est joli, c'est un climat bien tempéré. Mais c'est niaiseux, hein, mais je pensais à ça tantôt en attendant mon transport adapté. Quand tu es aveugle, c'est plus difficile de trouver l'arbre. De quand tu ne sais pas où sont les arbres. Mais oui, on pense à vous, ceux et celles qui sont à logement, qui n'ont peut-être pas les appareils ou qui cherchent des arbres ou qui n'ont peut-être pas les arbres. Et les gens en région, avec la brise, ben profitez-en. Il y a la ministre responsable des aînés et des proches aidants du Québec qui a déposé le 11 juin dernier donc un projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Celui-ci oblige notamment le gouvernement a adopté une politique nationale assortie d'un plan d'action. Et pour examiner la différence que pourrait faire une telle politique, si, et je dis bien si éventuellement adoptée, il y a Mélanie Perrault, qui est coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec, qui, lui, a 102 membres représentant plus de 22 000 personnes proches aidantes des groupes, des organismes locaux, régionaux, qui offre des soutiens psychosociaux, services de répit et activités d'information. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
J'avoue, quand j'ai vu cette semaine, ou je me souviens plus si c'est la semaine dernière, que ça se pouvait qu'il n'y ait pas de réforme du scrutin, même si ça avait été annoncé, là, puis qu'ils vont nous donner une petite entourloupette pour nous dire « Oui, on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. » Maintenant, je suis sceptique d'à peu près tout ce que ce gouvernement, comme bien d'autres, on fait, mais j'ai quand même envie de vous demander, le RPAQ, à la base, est-ce qu'il est satisfait de ce qui a été annoncé le 11 juin dernier?
On va dire que c'est une bonne première pierre à un édifice qui va être long et compliqué à bâtir. L'édifice étant la politique nationale et le plan d'action qui va avec. Ouais. Donc là, cette loi, c'était vraiment dans la logique d'obliger tous les gouvernements, c'est-à-dire celui actuel et les prochains, à avoir une politique. Donc c'est un projet de loi qui est dans son contenu, qui n'est pas très développé et c'est normal. Mais donc nous, on attend surtout la politique et le plan d'action, parce que c'est le plan d'action qui va nous permettre de savoir à quel point ça va réellement changer la vie des proches aidés et des personnes dont les proches aidants prennent soin quotidiennement ou presque.
OK, on se rejoint. Vous venez de détruire à peu près la moitié de mon questionnaire, Parce que ce que vous dites, c'est on est dans une attitude de, disons, on attend, on regarde, on espère, il y a lieu d'espérer avec ce qui a été dit, mais on est loin de la réjouissance. Que peut signifier une politique des proches aidants? Qu'est-ce que ça pourrait offrir si finalement tout concourait pour le bien?
Ça pourrait signifier plusieurs choses. C'est que actuellement, il y a vraiment une vision du proche aidant qui est utilisée par le réseau de la santé. C'est que quand on n'a pas de service à offrir, ben on se tourne vers le proche aidant. Et on lui demande pas tant son avis, puis comme on n'a pas beaucoup de services de soutien pour lui, ben dans le fond, c'est pas très grave parce que c'est pas lui l'usager du réseau de la santé. Et le but de la loi déjà inscrit ça, mais la politique à venir va venir consolider sur le comment on va le mettre en place. Donc c'est vraiment de dire non, à partir de maintenant, le proche aidant est à quelque part aussi un usager du réseau de la santé et aussi un partenaire dans les soins. Et on doit tenir compte de son expertise et de ses capacités à faire ou ne pas faire un certain type de soutien.
Oui. J'entends par là, bon, si je regarde les 6 principes directeurs, le premier étant reconnaître l'apport considérable des personnes à la société et l'importance de les soutenir. Donc, c'est un peu ce que vous venez de dire, à savoir qu'il sera à la fois, disons, abonné, j'aime pas dire un patient, mais quelqu'un qui va bénéficier du système, oui. Et un employé, si on veut, quelqu'un qui va contribuer au système. Et ça, je me demande comment on va faire pour gérer ce double statut-là.
Ça va être, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je disais tantôt, la loi vient établir certaines choses sur lesquelles il faut réfléchir, mais c'est vraiment la politique qui va déterminer après le comment. Je pense qu'il y a différentes façons. La première façon pour reconnaître le proche aidant comme étant aussi un usager qui a besoin de soutien, c'est de faire son évaluation. Mmh. L'évaluation de ses besoins, en fait. Pas son évaluation de ce qui fait bien sa job, mais vraiment l'évaluation de ses besoins. Donc, quand un proche aidant est là au moment d'un diagnostic, oui, mais aussi plus tard, parce que on sait, surtout pour les maladies dégénératives, ben, au début, ça va encore, mais au bout de 2 ans, voire même moins, ça dépend, ben, c'est là où ça va plus, puis c'est là où le proche aidant est considéré comme acquis, puis on ne se pose plus la question de est-ce qu'il a plus de besoins, moins de besoins, où est-ce qu'il en est. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une évaluation régulière du proche aidant qui va amener des services. L'autre façon pour atteindre ce côté partenaire de soins, c'est de faire en sorte, et ça va être un changement de culture au niveau des professionnels de la santé, et c'est là où ça va prendre du temps, c'est certain, du temps et je dirais une meilleure organisation du réseau de la santé pour qu'on arrête de tourner les coins ronds à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et ça va être de dire, ben, quand on fait un changement de médicament, par exemple, chez une personne, si le proche aidant lève le flag en disant, moi, depuis que vous avez fait ce changement-là, je vois telle conséquence, ben, qu'on ne se dise pas, maintenant, vous dites n'importe quoi, ouais, c'est pas possible, ouais. Mais qu'on dise, ah, ok, on va regarder, est-ce qu'on peut changer le dosage de la molécule, etc. Fait que là, c'est un exemple concret, mais il y en a 12 millions d'exemples comme ça. Les proches aidants, ils sont quotidiennement auprès des personnes qu'ils aident, que ce soit une personne en situation de handicap ou une personne aînée, et ils voient bien quand il y a des changements chez l'autre, quand ça va plus, quand ça va mieux, et il faut pouvoir les écouter et tenir compte de ce qu'ils disent.
Mais Mélanie Perroux, en les écoutant davantage et en les impliquant davantage, y a-t-il un danger qu'on ait davantage d'attentes à leur égard?
Oui, tout à fait. Il y a un risque de ce qu'on appelle la professionnalisation. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que, dans le fond, le proche aidant, ça soit comme lui qui fasse la surveillance de l'état de santé à tout moment. Et ça, on ne peut pas demander ça. Il va vraiment falloir avoir des balises claires. Il faut écouter ce qu'il a à dire, mais il ne faut pas se reposer sur lui pour s'assurer que tout va bien à la maison, par exemple.
Mmh. Je lis ici, considérer la diversité des réalités des personnes, bon, quand on parle de personnes, là, personnes proches aidantes, dans la réponse et dans leurs besoins spécifiques. Ça va pour les proches aidants, mais également selon la réalité, de la personne que l'on aide, ce ne sont pas toujours des aînés. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont des réalités tout autres. Est-ce que vous sentez que cette politique-là est globalisante? Est-ce qu'on inclut tout type d'aide et tout type de, appelons ça, de patients que le proche aidant appuie?
Alors, tout type d'aide, j'y reviendrai après. Tout type de personnes que le proche aidant soutient, je vous dirais oui. C'est pas écrit spécifiquement dans la loi, mais quand nous on a des discussions avec la ministre Blais ou le cabinet ou les personnes qui ont rédigé la loi, clairement, c'est pour tout type de proche aidant, dans le sens, ça peut être des jeunes aidants, donc aussi, qui ont des fois 10, 15 ans, puis qui prennent soin de quelqu'un à la maison. Ça peut être quelqu'un qui prend soin d'une personne qui a une maladie comme la sclérose en plaques ou le cancer. Ça peut être une personne qui prend soin d'une personne en situation de handicap, une personne qui a un trouble de santé mentale. C'est que vraiment, l'idée, c'est d'aller largement vers toutes les états de santé qui amènent à un rôle de proche aidant. Concernant est-ce qu'on va tenir compte de l'ensemble du soutien que les proches aidants donnent, je vous dirais que c'est là un peu où jusqu'à maintenant, avant la pandémie, je vous aurais dit non. Parce qu'avant la pandémie, on avait vraiment cette idée quand même de le proche aidant, c'est celui qui assure des soins, des services, donc des choses un peu concrètes, là, on s'entend, c'est réserver le transport adapté, c'est accompagner quelqu'un à un rendez-vous de soins, c'est faire le ménage, c'est faire l'épicerie, c'est donner le bain. Donc c'était clair dans la tête du milieu de la santé, c'était des actes. Et la pandémie a montré que ça va bien au-delà d'un acte technique. C'est pour ça qu'on remplacera jamais un proche aidant par un professionnel de la santé, parce qu'une énorme partie du rôle de proche aidant, c'est le soutien affectif, c'est le soutien émotionnel. Et la pandémie l'a montré à quel point c'était important. On l'a vu auprès des personnes aînées, mais on le sait bien que c'est auprès de tout type de personnes. Moi, j'avais des parents d'enfants en situation de handicap qui me disaient, vu que je ne peux pas aller le visiter, c'est des crises et des crises et des crises dans sa résidence intermédiaire. C'est qu'on voit, il y a vraiment cet aspect-là qui a été mis de l'avant, et c'est là où nous, on souhaite très sincèrement que la politique tienne compte de ce qui a été, de ce que nous, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais là, on ne peut plus se cacher, ça s'est vu et revu et revu dans les médias.
L'exemple que vous venez de donner donne froid dans le dos. J'ai l'impression, par contre, que moi, je perçois ça comme un changement de paradigme, je ne sais pas si je me trompe, mais l'obligation pour les ministères et les organismes du gouvernement de prendre en compte les principes directeurs de la politique pourrait devenir un changement important. Là, en anglais, on dirait un « game changer ».
Oui, tout à fait. Et ça va vraiment... Je ne sais pas comment ça va être mis en place après, parce que très sincèrement, ça laisse la responsabilité au ministère de déterminer si telle loi, telle directive ou telle mesure va avoir ou pas un impact sur les proches aidants. Or, on s'entend que le niveau de littératie en proche aidant, si je peux dire, n'est pas forcément très fort dans tous les ministères. Mais quand même, c'est majeur si on arrive réellement à le faire sur le terrain. Ça veut dire que à chaque fois qu'une décision va être pensée, on va se dire, est-ce que ça va avoir un impact ou pas pour les personnes proches aidantes. Puis moi, ce que je souhaite, très sincèrement, c'est qu'un jour, on se pose la même question, est-ce que ça va avoir un impact ou pas pour les personnes en situation de handicap? Parce que c'est pareil. Et là, on voit, par exemple, pour le transport, concrètement, le ministère des Transports va falloir que, à chaque fois qu'il fait une loi, comme la loi 17 qui était sortie sur les taxis, quel impact ça va avoir sur les transports adaptés, donc sur les personnes en situation de handicap, donc sur les proches aidants. Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui va probablement être mis en branle. Après, comment ça va se déployer sur le terrain, c'est un peu là où moi, j'ai comme des bémols sur le comment ça va se passer.
Mais ce qui peut être intéressant, à peu près tout le monde connaît un proche aidant de près ou de loin de notre famille. En sachant ça, ceux et celles qui travaillent dans des organismes ou pour la fonction publique et qui devront maintenant considérer que ce soit les organismes ou les besoins, vont peut-être poser des questions dans les brunchs du week-end pour s'informer, mieux connaître, alors qu'avant, on disait « Ah, pauvre toi », ça se limitait à ça.
Et Et je le souhaite parce ouais. qu'on a fait un projet de recherche sur la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Et ce qui est ressorti de manière assez flagrante, c'est aussi justement une forme de maltraitance de l'entourage qui c'est pas forcément volontaire, mais c'est qui vient comme ne pas poser de questions, c'est mieux de ne pas en poser parce que sinon ça risque de se retourner contre soi et donc laisse un peu le proche aidant. Voilà, un peu comme ça, pauvre-toi, mais sans proposer plus de soutien, forcément.
Dernière petite question. Oui. Selon vous, la mise sur pied d'un observatoire québécois de la proche aidance, est-ce très bon, bon ou un risque de tabletter plusieurs rapports?
Alors, c'est très bon. Et encore une fois, on en revient à comment ça va être mis en place. Nous, c'était une demande qu'on avait depuis longtemps. Aujourd'hui, l'observatoire, il est très centré santé et services sociaux. Et nous, c'est ce qu'on trouve dommage. Et puis, une des façons de faire pour que ça puisse pas être tabletté, c'est que ça crée une synergie entre les chercheurs, entre les décideurs, donc que ce soit les ministres ou les directeurs de CHUS, mais aussi entre les organismes qui offrent des services aux proches aidants, parce que eux, ils vont pas laisser les documents faire tabletter. Ils vont les ramener régulièrement sur l'espace public quand ça sera nécessaire. Et c'est là où vraiment, pour le moment, il y a un comité partenaire, enfin, il y a un comité scientifique où il y a un partenaire du milieu qui est présent. Et nous, on espère vraiment que là, ça va permettre d'éviter ça. Parce que sinon, on va juste faire créer une tour d'ivoire de plus sans changement sur le terrain.
Mais ça donnera du monde à interviewer, ça c'est sûr. elle est coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Je ne sais pas si on va se reparler, mais au cas où ça ne se produise pas, je vous souhaite un bel été, Mélanie Perrault.
Merci, vous aussi.
Merci.
Par les chemins, je vais solitaire, vers ma drôle de condition. En société inégalitaire, malgré de bonnes intentions, bien que je ne sois pas au pire, j'ai sur moi quelques solutions. Et un peu de cran pour suffire à mes utopies. Chemin faisant et au bout de mes peines, il n'y a plus d'hypocrisie ni de promesses qui ne tiennent. Comme le veut la convention, je rêve en simplicité qu'un enfant mange à sa faim et pas qu'en période d'examen, ni dans mes utopies. Mais chacun veut s'en tirer pour lui-même. Chacun veut s'en sortir, aimer. Mais chacun. indifférence et fratricide. Mais chacun veut s'en tirer pour lui-même. Chacun veut s'en sortir aimé. Mais chacun veut s'en tirer
Madame Campagna.
Monsieur Fortin.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
J'ai raconté votre histoire de ventilateur tantôt.
Oui, j'ai entendu ça.
On devrait dire la compagnie pour que les gens qui pensent pas...
Je le sais pas par
cœur.
OK.
Fait que c'est une affaire de...
Je peux vous dire où je l'ai acheté.
Qui a pas coûté cher.
Je peux vous dire où je l'ai acheté, mais je sais pas la marque.
Parlez-moi.
Oui. Ben des nouvelles, tout d'abord, un peu plus locales. On parlait de camp et de camp de jour récemment. Il y a le camp de jour Papillon, de la Fondation Papillon. Le Kamasawipi et l'organisme Filou qui ont décidé d'unir leurs efforts afin d'offrir un camp de jour sécuritaire cet été aux enfants qui vivent en situation de handicap. Ça aura lieu au siège social de la Fondation Papillon, donc à Montréal, sur le boulevard René-Lévesque. Il y a encore des détails là, à paraître, là, mais ils vont...
Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a une idée du moment où ça pourrait prendre forme à tout le monde?
Pas encore, mais pour se renseigner, on peut communiquer avec Julia Élie Léonard au 514 937-6171 au poste 225.
Et la... son nom de famille commence à Élie ou à Léonard?
Commence à Élie.
OK.
Ben, c'est entre Élie et Léonard qui a un trait d'union.
OK, d'accord.
Et la Fondation Papillon a aussi une résidence qui est en rénovation. Et là, ils vont pouvoir la rouvrir en janvier 2021 grâce à l'implication d'un grand donateur. Ils ont pu entreprendre de grands travaux de rénovation qui vont débuter cet été. C'est dans leurs locaux du centre-ville de Montréal. Ah, ça répond à la question un peu à propos du camp. Ah non, c'est la date qu'on ne savait pas. L'adresse, je l'avais déjà.
Mais c'est sûr, là, donc c'est une bonne nouvelle, mais on ne sait pas encore pour combien de campeurs. On ne sait pas, j'imagine, le type d'activité. Il reste encore beaucoup.
Et c'est un camp de jour. C'est pas comme...
Oui, non, mais des campeurs
du jour. C'est pas comme... Ben, la Fondation Papillon a aussi un camp de résidence dans la Naudière. Ouais. Celui-là reste fermé pour cet été.
Ouais.
La Fondation INCA a des bourses et il vous reste peu de temps pour postuler. Le message ne disait pas la date exacte. J'imagine qu'il fallait... se fier à la date de la publication où on recevait, la date où on recevait le courriel. Mais les bourses d'études sont pour les personnes qui poursuivent des études postsecondaires lors de la prochaine année scolaire, soit 2020-2021. Plusieurs bourses sont disponibles pour des étudiants aveugles ou ayant une vision partielle, des bourses qui vont de 1 000 à 12
500 okay, ah oui,
les inscriptions se terminent le 5 juillet.
D'accord,
voilà.
D'accord. Alors, ce sont ceux qui seront supervisés par Mme McCann, par le ministère de Mme McCann.
Oui, c'est ça.
Et quand même, jusqu'à 12 500, il y a quelqu'un qui a investi, c'est gentil.
Donc, on peut visiter le INCA.ca/fr/bourse au pluriel pour avoir plus de renseignements.
Et ça, c'est à travers le Canada. Donc, il y a quand même des bourses qui seront données, octroyées à des personnes anglophones, mais quand même. Essayez.
Essayez.
Ouais.
Ça vaut la peine d'essayer. Du côté de Québec, le réseau de transport, on a fini d'installer la protection pour les chauffeurs.
Mais voyons.
Ce qui fait.
C'était pas fait encore.
Bien, à Montréal, il n'y en a toujours pas. On entre toujours par la porte de côté.
Oui, mais on ne peut pas aller y voir.
Mais à Québec, ça faisait en sorte que... parce qu'à Montréal, on avait gardé une exception pour les personnes en fauteuil roulant qui rentraient par la rampe avant, alors qu'à Québec, on avait décidé qu'il fallait se tourner vers le transport adapté. Alors, à Québec, on a terminé l'installation sur l'ensemble des autobus articulés, c'est-à-dire ceux qui circulent sur les parcours accessibles 800, 801, 802, 804 et 807. C'est un peu comme le métro de Québec, ces autobus-là. Ouais. C'est celles qui font des grands parcours. Et en ce qui concerne les parcours accessibles 11 et 803, l'installation est en cours, donc il faut encore utiliser le transport adapté.
J'ai visité quelques berlines en transport adapté. Là, les berlines ont repris du service depuis 2 semaines environ. Et là, t'as le chauffeur qui a son masque. T'as le passager sur la banquette arrière qui a son masque. T'as le plexiglas entre les deux. La conversation est assez particulière. Surtout si, en plus, on démarre le climatiseur cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup d'interférences. Mais on sent les chauffeurs heureux, non seulement de retravailler, mais ils ont de la jasette. Ils ont de la jasette par les temps qu'on dirait qu'ils n'ont pas jasé depuis 3 mois. Tu restes là, Christiane. On va faire une petite pause. Ensuite, on va faire un petit 2 minutes avec Christiane, puis il sera question de basket en fauteuil roulant et de financement du transport adapté.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Christiane Campagna à la mise en... Ah non, c'est Jean-Sébastien qui est à la mise en onde. Christiane, elle est à la recherche, elle est édimestre et elle est nouvelliste aujourd'hui. Nous donner des petites infos de d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on quitte le ici pour aller ailleurs?
Oui, on s'en va ailleurs. On s'en va à Tokyo.
Oh, ça, c'est vraiment ailleurs.
À l'aéroport de Haneda, à Tokyo, les personnes à mobilité réduite peuvent désormais se déplacer sur un fauteuil roulant qui est autonome.
Ah, j'ai vu ça, ça m'intrigue tellement.
Donc, le WHILL, Autonomous Drive System, pour système de conduite autonome, va être déployé dans l'aéroport international, qui est le 4e le plus fréquenté au monde. Il sert à transporter les personnes ayant des difficultés à se déplacer depuis le point de contrôle de sécurité jusqu'à la porte d'embarquement. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton pour que le système démarre et se rende à l'endroit choisi.
Est-ce que, quand tu as lu le texte, tu as eu la même compréhension que moi, qu'il y a comme juste à peu près un trajet, c'est-à-dire du point A au point B? Tu peux pas aller dans un petit... t'acheter un café c'est ça? Hein?
Non, c'est des trajets programmés.
Ouais.
Très précis, mais qui permettent... Bon, comme il n'y a pas quelqu'un qui est obligé de pousser votre fauteuil ou vous soutenir en marchant, ben ça permet de maintenir la distanciation. D'ailleurs, leur déploiement dans l'aéroport de Tokyo, on dit qu'il reste limité pour l'instant. On dit aussi que British Airways a fait des tests avec l'appareil à l'aéroport JFK à New York. Selon le PDG de l'entreprise, le contexte actuel est justement idéal pour déployer son invention, puisqu'à l'ère du coronavirus, nous pensons que les services qui favorisent la mobilité tout en maintenant la distanciation sociale vont s'accélérer pour remplacer le travail humain par des robots et des technologies de conduite autonome.
En autant qu'on ne voit pas cela comme une opportunité de dégager, disons, des préposés qui pourraient nous aider, parce que parfois, oui, c'est de nous amener quelque part, mais c'est peut-être aussi de « peux-tu m'arrêter à la salle de bain en chemin » ou « si le fauteuil ne peut pas le faire, je ne peux pas plus avancer ».
Oui, il semble y avoir beaucoup de rigidité dans tout ce qui est aéroport et mobilité. Je me souviens d'une anecdote de Stéphane... Son nom de famille m'échappe.
La porte.
Où on disait, à partir d'ici, vous ne pouvez plus utiliser le fauteuil. pour vous rendre à telle place. On lui avait prêté un fauteuil, mais à partir de tel endroit dans l'aéroport, il fallait qu'il le rende. Il ne pouvait pas se rendre jusqu'au bout.
Ouais.
Oui, il y a beaucoup de... Ou les personnes sourdes qui ont prévu un fauteuil roulant.
Une dernière d'ailleurs?
Ben, aux États-Unis, il y a un petit peu d'inquiétude chez les personnes qui ont un handicap visuel avec le déploiement du vote par la poste pour, à cause du contexte de la pandémie. Aux États-Unis, il y a beaucoup de machines pour voter, ce qui favorise l'accessibilité parce qu'on peut avoir des options sonores. Et avec le vote par la poste, s'il n'y a pas de mesure d'accessibilité, ben à ce moment-là, une personne est obligée de cocher pour vous et vous devez faire confiance. Ouais. Non seulement c'est pour qui vous allez voter, mais vous êtes obligé de lui faire confiance. Mais des organismes ont déjà fait des poursuites au Michigan, à New York et en Pennsylvanie. Et dans ces États-là, déjà, on apprend qu'il va pouvoir y avoir du vote par Internet. Là, il y a d'autres enjeux qui viennent avec ça. Il y a des spécialistes qui sont très inquiets de la fiabilité des données, tout ça. Par contre, donc, ça va être de peser l'accessibilité versus la sécurité.
Mais là, on se prépare au cas où, là, parce qu'il n'y a rien qui dit qu'au mois de novembre, on sera tenu de faire le vote par la poste. C'est quand même dans 6 mois.
Pour l'instant, plusieurs États sont en train d'annoncer que le vote va se faire par la
déjà,
poste.
Ah oui, déjà, on aurait pris la décision.
C'est parce qu'aux États-Unis, même s'il s'agit d'élections fédérales, chaque État a ses façons de faire.
Ouais, ouais.
Le directeur des élections aux États-Unis, c'est le gouverneur de chaque État.
Wow, quand même. Merci. Salut Dominique Tremblay.
Bonjour Luc, ça va bien?
Ben oui, merci. Et toi?
Oui, pas pire.
Écoute, l'exclusion de David Eng des Jeux de Tokyo en fait, on est déçu pour lui. On se demande l'influence que ça aura pour le basket en fauteuil roulant. Peut-être juste expliquer que David avait remporté dans sa carrière 3 médailles paralympiques, dont une d'argent et 2 d'or. Championnat du monde une fois. Il a été porte-drapeau de la délégation canadienne aux Paralympiques de 2016. Revenons sur le bras de fer entre la Fédération internationale de basket en fauteuil roulant et le Comité international paralympique. Toi et moi en avions parlé lorsque... le CIP a montré ses muscles au début de l'hiver en disant « si vous ne faites pas le ménage, il est probable que vous ne soyez pas à Paris, vous, Fédération de basket en fauteuil, et peut-être même à Tokyo ». C'est un problème de qualification. Là, au dire de l'IPC, il y a des joueurs qui ne sont pas assez hypothéqués physiquement pour participer au jeu.
Donc, pour faire une histoire courte, en 2014, le Comité international paralympique a mis en place un code de classification qui s'adresse à tous les sports qui veulent faire partie des Jeux paralympiques. Ce code-là permet une standardisation de la classification et aussi des certaines politiques. Un des critères importants, c'est les critères d'éligibilité pour être un athlète paralympique.
Ouais.
Et ces critères d'éligibilité, là, sont divisés en 10 catégories d'handicap. Par exemple, l'handicap visuel en est un, l'ataxie en est un autre pour les athlètes, entre autres, qui ont la paralysie cérébrale, l'amputation en est un autre. Donc, ces 10 critères-là. Depuis 2014, le basketball en fauteuil roulant avait refusé de signer ce code pour faire partie des Jeux paralympiques. Mais il faut savoir que le basketball en fauteuil roulant, c'est un peu comme le soccer / football pour les Jeux olympiques. C'est la plus grosse fédération indépendante des Jeux paralympiques. C'est le sport le plus populaire. Donc, il y avait une guerre de politique entre les deux fédérations. Et c'était une différence de façon de voir les choses en termes de qui peut avoir accès au jeu. Pour le basket en fauteuil roulant, la Fédération internationale, le règlement de base, c'est si tu ne peux pas jouer au basket debout à cause d'une blessure, d'un handicap, d'un manque de quelque chose, tu peux jouer au basket en fauteuil roulant.
Mais c'est simple et en même temps, c'est clair.
C'est simple et c'est clair, mais c'est un peu aléatoire pour le Comité paralympique international. Parce que tu as juste avoir un bon dossier médical quand tu présentes ta demande de classification et ça va être accepté et plus jamais questionné. Il n'y a pas vraiment de critères de base pour certains types d'handicap pour le basket, dans le basketball en fauteuil roulant. Ce que demandait le Comité paralympique international. Pour donner un exemple, pour jouer au basketball en fauteuil roulant, tu dois avoir une amputation. Le critère minimum pour le basketball en fauteuil roulant, c'était que tu devais manquer un orteil, la grosse orteil, pour être éligible au basketball en fauteuil roulant. Si tu manquais une main, tu n'étais pas éligible pour le basketball en fauteuil roulant. Mais pour d'autres types d'handicap, ce n'était pas aussi clair. Et c'est à partir de ce moment-là que la chicane entre les deux fédérations a commencé. Et ça a culminé là, au mois de mars, avec la menace que le Comité paralympique international a fait. Et David Eng a été celui qui est un des premiers à manger, à être une conséquence de cette guerre-là.
Oui, il semble-t-il qu'on aurait testé ou évalué, en tout cas 75% des athlètes à travers le monde là, dans la fédération, qu'au Canada, il reste encore 5 filles à évaluer et 2 gars dont on attend toujours les résultats. Mais je comprends mal, Dominique, comment si quelqu'un n'a qu'une main, on décide déjà qu'il ne joue pas. Je veux dire, ça devrait être à l'équipe de déterminer si oui ou non le gars va être un atout ou pas. Au baseball, John Abbott a joué avec une main. S'il avait fallu que le baseball le discrédite, simplement, je veux dire, si le gars, il est bon, il est bon.
Oui, mais c'est comme le code de classification est un peu comme le code antidopage. Donc, le code de classification est s'assurer que les compétitions en général soient faites de façon équitable pour tous les handicaps et pour tous les sports. Et tout le monde doit suivre ce code-là, comme tous les sports et tous les pays doivent suivre le code d'antidopage. Et c'est important de mentionner que la classification est le talon d'Achille du comité du sport paralympique en général, comme les problèmes de dopage sont le talon d'Achille du cyclisme, de l'athlétisme ou de l'haltérophilie, par exemple.
Est-ce que la situation que l'on vit actuellement va modifier grandement le sport? Est-ce que les performances vont s'en sentir?
Ça reste mon opinion personnelle.
Ouais.
Je ne crois pas qu'au niveau international, ça va modifier beaucoup de choses. Il y a quelques athlètes qui vont être affectés. Il y a donc certains pays qui vont perdre quelques-uns de leurs athlètes. Mais en général, je pense que ça va rester le même parce que on fait seulement bouger un petit peu la limite comme quoi on peut jouer ou ne pas jouer. Puis c'est juste, en gros, ça ne changera pas quelque chose. C'est juste que présentement, il y a certains athlètes qui sont pénalisés et le timing est un peu inapproprié à quelques 4 mois, peut-être un an des Jeux, maintenant que ça a été déplacé. C'est un peu à la limite, mais fallait que le Comité international paralympique mette ses culottes, comme on dit, puis dise qu'il fallait que ça se passe parce que ça traînait depuis 2014.
Bon, bien que ce soit plate pour le gars, David Eng n'était pas nécessairement partant de la formation canadienne, mais imaginons là, si les Jeux n'avaient pas été déplacés un an plus tard et qu'une formation internationale perde une formation nationale perde un partant à 2 mois d'avis, c'est quand même étonnant. Et je lisais l'entraîneur d'équipe canadienne, l'équipe masculine, qui lui disait peut-être que si l'ancien président du Comité international paralympique s'était, disons, manié davantage, on n'en serait pas là.
faut rappeler que l'ancien président du Comité paralympique international, son nom est Phil Craven, Monsieur Sir Phil Craven, est un Britannique. Il était l'ancien président de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant et lui-même un ancien joueur de basketball en fauteuil roulant.
Ouais.
Donc, il est possible qu'il y ait un petit peu de politique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées en classification au cours des 6 dernières années. Le basketball en fauteuil roulant n'a pas été le seul qui a écopé. On parle, par exemple, du football à 7 qui a été exclu des Jeux paralympiques pour les Jeux après les Jeux de Rio parce qu'ils devaient revoir leur système de classification aussi. Donc, est-ce que c'est le Comité paralympique international, le Comité international paralympique qui s'est traîné les pieds? Peut-être. Est-ce qu'ils ont essayé de trouver un terrain d'entente, puis la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant s'est traîné les pieds, puis on a dit « Ah oui, on va régler le problème, puis on va attendre, on est tellement important que on n'a pas de problème, on va s'en sortir. » On n'était pas dans le secret des dieux, mais c'est possible que la menace aurait pu arriver un peu plus tôt, puis ça aurait réglé bien les choses.
En terminant, Dominique, est-ce qu'on aurait pu... Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas jouer debout, là. Donc là, en théorie, ils ne peuvent plus participer aux Jeux paralympiques. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, au lieu d'un 4,5, tu vas devenir un 5,5 sur le terrain, et là, ça va coûter plus cher à l'équipe d'avoir un joueur comme ça, mais au moins, ça ne l'exclut pas.
Il y a plusieurs choses, mais le plus gros des problèmes, c'est que là, l'athlète ne répond plus aux critères minimaux pour jouer le sport. Donc, c'est pas juste une question de « on peut-il donner 5 points? »
Ouais, mais il peut pas jouer debout. Eh là là!
C'est pas tout le monde qui est... Est-ce que c'est possible de jouer au hockey dans la Ligue nationale non plus? Hein?
Ouais. Bon, sur ces paroles de sagesse, on vous laisse aller.
C'est triste pour David.
Ah oui.
J'espère qu'il va être capable de s'en remettre. Il peut être capable de jouer encore au Canada puis être impliqué dans le système canadien en tant qu'entraîneur ou des choses comme ça. Donc, on espère qu'on ne perdra pas ses connaissances.
Oui, puis dans une couple de semaines, là, il va quand même pouvoir se dire « j'ai eu une belle carrière ». Puis moi, je pense aux jeunes de 23 ans qu'on ne connaît pas. Puis, enfin, bref. Mais,
ouais.
Mais c'est sûr que... Ça finit mal une carrière. Dominique Tremblay, merci beaucoup. On se parle bientôt.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Bon, là, c'est l'été. Et c'est l'été qui frappe fort. Alors, j'avais envie de sortir un été de Vivaldi, mais qui frappe fort. Et c'est Alexandre Dacosta qui nous l'offre. Hard Summer. Alexandre Dacosta, tiré de son plus récent, je crois que ça date du mois de mars ou quelque chose comme ça. À savoir si on aime ou on n'aime pas, ben ça c'est libre à vous, mais je trouvais quand même la curiosité intéressante à entendre. Bon, certains craignent des déficits importants dans le futur pour les transporteurs qui offrent du transport adapté. Dans la formule actuelle, moins il y a d'utilisateurs dans les véhicules, moins il y a d'argent pour les transporteurs. D'ailleurs, dans un article du Nouvelliste de la semaine dernière, on évaluait à 95% la baisse d'achalandage. Au téléphone, le président de l'Union des transports, des transports adaptés et collectifs du Québec, Marc-André Avoine. Bonjour Marc-André, merci beaucoup d'être là.
Merci à vous.
Mis à part le nombre de passagers, y a-t-il d'autres critères qui déterminent un budget actuellement? J'essaie de comprendre la formule et qu'est-ce qu'on peut faire.
Ben, définitivement, au niveau des subventions du gouvernement provincial, c'est principalement basé sur la fréquentation, donc le nombre de déplacements qui est réalisé. Vous l'avez cité en exemple, 95% au niveau des baisses qu'on a pu enregistrer à certains moments. Heureusement, ça reprend tranquillement, mais peut-être pas aussi vite qu'on l'espérait. Puis c'est vraiment la base de notre financement, c'est la fréquentation pour le gouvernement du Québec. À ça, au montage financier, ben, il y a les revenus usagers, donc ce que la personne paye, le 3, le 4, le 5 $ à chacun de ses transports, et le monde municipal, les municipalités, les villes qui complètent là, le montage financier.
Est-ce que donc 95% de moins de passagers signifierait une perte de 95% des budgets? Parce que vous le dites, je veux dire, le tarif que je paye, si je le prends pas, même ce 3,50 $-là n'apparaît pas, là.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez vu aussi là la fin de la semaine dernière, il y a eu une annonce gouvernementale de la part du ministère des Transports.
Vous allez venir, oui.
Donc 400 millions. On attend évidemment d'avoir les modalités, mais on est persuadé là du côté de l'Union que c'est un pas dans la bonne direction. On a pu obtenir comme confirmation qu'il y aurait une compensation au niveau des pertes de revenus des usagers, donc le 3, le 4, le 5 $ vous parliez. Pour le reste des modalités, on va attendre. Là, ça devrait être disponible d'ici quelques semaines.
Et ça, c'est pour le budget 2020-21 ou 21-22?
2020-2021, 2021-2022, il n'y a pas eu d'annonce à ce niveau-là.
Puis l'année financière commence quand, en 2020, savez-vous? Est-ce que ça varie d'un transporteur à l'autre?
Ça varie d'un transporteur à l'autre, mais je vous dirais, règle générale, on est collé avec l'année civile, là, donc du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas de l'année financière du gouvernement du Québec, là, ben, c'est plus, si je me souviens bien, je pense que c'est avril à mars. Là.
OK, donc c'est comme un manque à gagner. C'est du rattrapage que le gouvernement offre, là.
Ben, c'est sûr qu'il est dans la même situation qu'on voit en ce moment. C'est de dire, bon, ben, depuis mars, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper la situation? Il y a eu une annonce, on va attendre de voir les modalités. Puis ce qui est le fun, puis faut saluer le geste, là, l'annonce qui a été faite, c'est autant pour le transport collectif que le transport adapté.
Ah, oh, zut! Donc, c'est je pensais que 400 millions, c'était juste pour nous. OK, OK.
Non,
je me réjouissais, là. J'étais content, moi.
C'est pour le transport collectif, le transport adapté. Puis l'autre bonne nouvelle de cette annonce-là, c'est que c'est pour les grandes villes et aussi les régions. Parce que il est vrai qu'au Québec, la majorité des déplacements, que ce soit en transport collectif ou en transport adapté, c'est dans les grandes villes, Montréal, Québec, ainsi de suite. Mais il y en a aussi qui se fait en région. Puis ça, nos membres, ils sont dans les régions du Québec, à l'extérieur des 9 grandes sociétés de transport qu'il y a au Québec.
Bon, parlons-en des régions parce que on remarquait déjà des difficultés, là, je pense, aux ressources qui manquaient à Saguenay. On a coupé plusieurs transports les week-ends pendant plusieurs semaines. Donc, même avant le 13 mars, les régions déjà souffraient, là.
Ben, c'est clair que la pénurie de main-d'œuvre, là, pas mal toutes les régions du Québec y font face. Au-delà de l'aspect financier, là, des besoins en subvention et tout, il y a l'aspect de disponibilité des ressources. Donc, selon la région, on a des autobus, on peut avoir des taxis. Des fois, on a un modèle hybride entre les deux. Certaines régions, c'est uniquement des taxis. Je pense qu'il y a autant de régions que de modèles d'offres de services, si vous voulez. Il y a des gros défis au niveau de la main-d'œuvre. Il ne fait pas exception. Mais je pense qu'on est capable d'être imaginatif et de trouver des solutions pour continuer à offrir le service, un service qui, notamment pour le transport adapté, qui est tout à fait essentiel.
Mais Marc-André, est-ce un problème de main-d'œuvre ou de rentabilité? Je ne me souviens plus si c'était à Blanc-Sablon ou en tout cas, il y a une compagnie dans ce coin-là où le monsieur disait moi, c'est pas rentable. Je veux bien le faire, mais il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de transport à faire. Puis là, je parle d'avant la pandémie. Donc, est-ce un problème d'actifs financiers ou vraiment de chauffeurs et de véhicules disponibles?
Dans la majorité ou presque 100% des MRC des régions du Québec, le service est offert par soit une entité paramunicipale qui est une MRC ou un OBNL qui est à proximité. Qui reçoit le mandat, si vous voulez, de la municipalité ou de la ville pour opérer le service de transport adapté. Donc, c'est un modèle qui est bon, qui se finance, comme je disais tantôt, avec le gouvernement du Québec, avec les utilisateurs, avec les municipalités. Je me souviens pas exactement là, de cet article-là, mais en tout cas, je m'en souviens pas clairement. Là, dans certaines régions, il y a aussi l'aspect de rentabilité. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est un service qui est municipal ou paramunicipal. Donc, l'aspect rentabilité, écoutez, c'est toujours difficile de parler de rentabilité. On parle plus de rentabilité sociale dans le cas présent. Un service des loisirs, là, parce qu'on connaît plus ça, mais est-ce que ça sera rentable un jour ou jamais? Ça prend un apport financier du gouvernement du Québec ou des municipalités. Une rentabilité sociale, ça, c'est indéniable. Ça permet aux gens d'aller travailler, d'aller aux études, d'aller à leurs soins médicaux, puis des fois de tout simplement briser l'isolement, puis de ne plus être à la maison, puis d'aller rencontrer d'autres gens.
Si on évitait le président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec avec une eau pétillante en disant... qu'est-ce que tu as à nous proposer? Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir qui pourraient peut-être améliorer la façon de budgéter?
C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a des grands défis. Je pense que tout le monde est mobilisé à offrir le meilleur service possible. Puis parfois aussi, peut-être en se parlant, on se comprend aussi.
Ouais.
Des fois, tu sais, il y a une question de vision, de dire, ben, j'ai ce besoin-là, de quelle façon je peux y répondre.
Je pense à de la commandite, là. J'essaie de sortir du cadre, parce que, tu sais, il me semble qu'on demande beaucoup d'argent au Trésor public depuis quelques mois, là. C'est sûr que moi qui suis aveugle, s'il y a un panneau publicitaire dans ma face, il fera pas d'argent avec moi, le commanditaire. Mais.
C'est clair. Je pense qu'il y a plein de façons, tu sais, on parle beaucoup du socio-financement, je ne dis pas qu'on va faire ça en transport demain, mais effectivement, il y a plein d'autres façons d'aller chercher des revenus. Vous soulignez les revenus publicitaires, à juste titre, c'est tout à fait possible. Beaucoup de nos membres vont chercher certains revenus. Il y a des fois des gros partenariats, Desjardins, entre autres, qui soutient financièrement différents services dans différentes régions.
Ah oui, OK.
Je pense que c'est d'aller chercher, d'être imaginatif, d'aller chercher toutes les options possibles pour aller chercher du financement pour que, évidemment, essayer que la part de l'usager soit raisonnable que celle du gouvernement du Québec et des municipalités soient tout à fait raisonnables aussi.
Puis ce qui n'aide pas par les temps qui courent, c'est cette obligation de faire un voyage à la fois. Je veux dire, c'est sûr que ça coûte plus cher.
Plus difficile. Puis un élément, puis je pense qu'il faut insister là-dessus, qu'on voit de plus en plus en région, c'est un partage dans le même véhicule. On va avoir du transport collectif et du transport adapté.
Ah ouais, c'est pas fou ça.
C'est une voie, je pense, intéressante puis pertinente de développer. Et des fois, en parallèle, il y a des services qui transportent uniquement les usagers.
Je suis obligé de vous laisser, Marc-André, mais vous aussi, je vous souhaite un bon été. On réfléchit là-dessus. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Il nous reste un lundi en juin. On sera là la semaine prochaine. Ciao.